Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Vincent Van Der Venet en régie, Benoît Feit au micro. Ils étaient plusieurs milliers à défiler le dimanche 15 mars à Bruxelles sous la bannière de Together in Peace, Ensemble pour la paix, une marche pour la paix justement, organisée par les représentants de diverses religions et de la laïcité qui entendaient ainsi rappeler leur attachement à la paix et leur refus de sombrer dans la peur suite aux actes terroristes de Paris, Copenhague et ailleurs. Mais au-delà de ce message de paix et de respect mutuel, sur quoi peuvent exactement converger croyants et laïcs aujourd'hui? C'est la question principale que nous allons poser ce soir à nos invités. Yann De Volder, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le coordinateur de cette marche Together in Peace et vous êtes également le représentant de la communauté catholique Sant'Egidio. Salah El-Chalaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de l'Assemblée Générale de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Vous êtes également inspecteur des cours de religion islamique à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jean De Brucker, bonsoir également.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général du CAL, du Centre d'Action Laïque, et vous étiez vous aussi présent à cette marche Together in Peace de Bruxelles. Vous nous expliquerez d'ailleurs dans quelques instants pourquoi le CAL a choisi de participer à cet événement. Mais Yann De Volder, pour commencer, expliquez-nous, vous qui êtes à la base de cette marche, justement pourquoi avez-vous décidé d'organiser un tel événement?
Mais l'année 2015 a mal commencé. On a tous assisté à l'horreur des actes terroristes de Paris. Quelques jours plus tard, à l'invitation du Premier ministre Charles Michel, les représentants des cultes en Belgique et de la laïcité, ils ont tous signé un papier pour dire oui au vivre ensemble dans la paix, oui aux valeurs de la liberté, aux valeurs démocratiques, oui au vivre ensemble dans le respect. Et je trouvais ça très bien qu'ils aient signé ce papier, mais il est important que ce message passe dans la rue, à la base, notamment auprès des jeunes. Et voilà, pour cela, on avait pensé, il faut faire plus. Et donc l'idée de cette marche est née là un peu aussi en dialogue avec notamment nos amis juifs, nos amis musulmans, nos amis laïcs.
Alors pourquoi justement avoir convié les laïcs à une telle marche? C'était vraiment symboliquement important, ou au-delà du symbole, c'était l'occasion peut-être de rassembler toutes les forces en présence?
Voilà, exact. On voulait notamment donc rassembler les différentes composantes de la société belge, et souligner ce pluralisme qui est un peu le socle quand même de notre société. Et donc oui, il était très important que les laïcs y soient.
Souligner le pluralisme et également souligner le socle de valeurs communes, on l'imagine. Quelles seront les valeurs communes justement à tous ces différents courants de pensée qui ont défilé ensemble selon vous?
Mais voilà, donc nous avons trouvé en chacun évidemment une volonté de paix. Ça, c'est important. Je veux dire, on vit dans des temps de guerre, de terreur, de la barbarie. Donc voilà, la paix, c'est une valeur et on ne peut pas la souligner suffisamment. Donc, vivre ensemble dans la liberté, donc les libertés qui sont les nôtres, de notre société démocratique, et la liberté d'avoir une opinion, d'exprimer cette opinion, la liberté de conscience, la liberté de religion, de culte, la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais tout cela, c'est seulement vivable si on le vit dans le respect de l'autre, un respect profond pour l'être humain, et aussi avec d'autres. Ce respect va ensemble avec d'autres valeurs. On ne pouvait pas tous les mettre dans le titre, mais ça va aussi avec, je dirais, un certain bon sens, avec la courtoisie, avec une certaine politesse peut-être, l'art du dialogue qu'on exerce aussi dans cette émission. Tout ça, c'est très important. Je pense que c'est même fondamental pour l'avenir de notre société. Écoutez, en organisant cette marche et dans le dialogue que la communauté de Sant'Egidio, on n'est pas des néophytes dans ce domaine du dialogue, ça fait 25 ans que la communauté de Sant'Egidio organise des moments de rencontre œcuméniques avec d'autres chrétiens, avec d'autres cultes, avec la laïcité. Notamment, on avait eu un rassemblement important au mois de septembre à Anvers, au niveau international, où beaucoup de représentants des cultes en Belgique, mais aussi de la laïcité en Belgique, notamment, je me rappelle, une table ronde avec la participation de M. Eddy Kakelberg, qu'on connaît bien dans cette maison. Voilà, donc ces liens sont là. Seulement, on a mis toutes ces ficelles ensemble pour dire, voilà, on va faire quelque chose de nouveau. Créer une image, parce que c'est cette guerre, on vit aussi dans un climat de guerre, et aussi faite par des images. Alors, pour contraster la peur et la polarisation, qui est la stratégie de la terreur, il fallait créer une image forte qui est l'image du vivre ensemble. Et voilà, les chefs religieux, parce que peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu les images, permettez-moi de le rappeler, les chefs religieux avec les responsables de la laïcité en Belgique, ils ont marché côte à côte ensemble, même main dans la main, littéralement, de temps en temps, et ils se sont arrêtés devant des lieux de prière dans la ville de Bruxelles, aussi une maison de la laïcité, justement pour souligner ce respect dans le concret. Et donc, les paroles ont été très importantes, les paroles qui ont été dites, mais l'image, c'est elle qui a encore parlé plus.
Salah El-Chalaoui, je l'ai dit en introduction, vous êtes donc le vice-président de l'Assemblée Générale de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Vous étiez, vous, présent à cette marche. À ce titre, notamment, pourquoi était-ce si important pour vous de participer à cet événement ?
Oui, tout d'abord, je tiens à remercier donc Saint-Égidio et son représentant Yann, qui était le coordonnateur de cette marche, d'avoir été le moteur justement de cette marche qui nous a tous unis ensemble, représentant des différentes composantes de la société belge. Pour nous, c'était très très important d'être là, d'être présent à cette marche, de participer à côté de nos concitoyens de différentes convictions, d'abord pour dire non à la barbarie. Non au terrorisme, non au rejet, non à la haine, non au racisme, oui au respect, oui à la liberté, oui au vivre ensemble. Ce sont des valeurs qui nous unissent et pour lesquelles nous voulons travailler avec tous nos concitoyens. C'est la Belgique tout entière qui était là, par ses représentants justement, donc ses représentants des différents cultes et de la laïcité. La présence de citoyens appartenant justement à différentes convictions, pour montrer que notre société est une société plurielle, est une société multiconfessionnelle, multiconvictionnelle, est une société, c'est ça la Belgique, est une société qui vit dans le respect et doit maintenir cette cohésion sociale en se basant justement sur ce corpus de valeurs communes, sur donc ces valeurs chères qui sont la liberté, le respect et la tolérance.
Et c'était justement important pour vous également de pouvoir défiler aux côtés de laïcs à cette occasion ?
Oui, c'est tout à fait normal. Donc, c'est-à-dire à côté des laïcs, c'est pas la première fois qu'on se trouve à côté des laïcs. Nous travaillons ensemble sur beaucoup de projets qui nous unissent dans la société et nous n'avons pas de problème. Au contraire, tout cela enrichit bien sûr notre société. Le fait de se trouver ensemble affirme justement que nous nous respectons les uns les autres. Dans nos démarches, dans nos convictions, et qu'il y a des valeurs qui nous unissent, qu'on soit laïque, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique ou protestant, orthodoxe ou agnostique ou athée, il y a des valeurs communes qui nous unissent dans ce beau pays.
Quel est justement ce socle de valeurs communes ?
C'est d'abord la liberté de penser, la liberté de croire ou ne pas croire, la liberté de changer sa religion, si on le désire, donc la liberté, bien sûr, absolue, dans le respect mutuel, lié à la responsabilité et aux valeurs du vivre ensemble.
Jean de Brucker, on sait qu'en règle générale, le Centre d'Action Laïque préfère prendre ses distances vis-à-vis des initiatives œcuméniques pour la bonne et simple raison que la laïcité n'est pas un culte. Mais dans le cas présent, vous avez décidé qu'il était important pour la laïcité d'être présente au sein de cette marche. Pourquoi ?
Oui, effectivement, le classicisme laïque du mouvement laïque, la théocratie, nous y sommes opposés. L'œcuménisme et les démarches œcuméniques, on est généralement assez tièdes. Mais comme l'ont rappelé les autres intervenants, il y avait un instant, une particularité des circonstances de l'initiative qui a été prise. C'était suite aux événements du début de l'année. Et alors, à ce moment-là, de réaffirmer, on reviendra sur la question du respect, de la liberté, parce que la liberté religieuse, la liberté d'expression et le respect, je pense qu'il faut bien se mettre d'accord si on parle de la même chose. Mais avant ça, sur la notion de paix, de montrer de manière symbolique. Maintenant, il faut voir l'impact symbolique. C'est vrai que l'attentat à Charlie Hebdo, c'était un mercredi, le dimanche, il y a 200 000 personnes qui sont descendues de la rue à Bruxelles, et je ne parle pas de la marée humaine à Paris et dans d'autres villes. C'est vrai qu'ici, symboliquement, nous qui avons participé, on peut se réjouir du nombre, mais je ne sais pas quelle est la portée symbolique exacte. Mais enfin, la démarche est de toute façon une démarche positive et auquel la laïcité s'est associée. Et ça avait plus de sens maintenant, suite aux événements de Paris, de Copenhague, parce que ces événements, ces attaques sauvages, étaient faites en invoquant une religion, en la dévoyant totalement, en l'occurrence l'islam. Hein, je ne fais pas d'amalgame, justement, il faut être prudent. Mais ils le faisaient au nom, en évoquant ou se rattachant De manière totalement dévoyée, comme je dis. Et d'autre part, c'était suivi ou couplé avec des actions, une violence antisémite. Donc, les religions, les croyances étaient au cœur de la préoccupation. Parce que, malheureusement, la folie des hommes, elle est générale. On la trouve aussi bien sur les stades de foot que dans des événements comme ça. Mais ici, c'était quand même, je veux dire, proche de l'aspect convictionnel. Donc, l'ensemble des convictions et cette notion transversale qu'est la laïcité, puisqu'elle recouvre à la fois, effectivement, rassemblant en Belgique, c'est un peu une particularité, les non-croyants, donc il y a aussi, mais aussi cette volonté qui est partagée, d'ailleurs, quelle que soit la conviction, d'aller vers une conception laïque du vivre ensemble et de la société. Donc, vu les circonstances, vu ce qui a motivé, vu l'initiative, au nom du rassemblement pour la paix et pour la liberté. Je m'arrêterai là pour le moment, dans l'énoncé, la laïcité trouvait qu'elle avait tout à fait sa place et se réjouissait de l'initiative qu'il avait prise et d'y avoir participé.
Bien, je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours prononcé justement par Henri Bartholomé Hussen, le président du Centre d'Action Laïque, lors de cette marche du 15 mars dernier. Et je vous proposerai évidemment de réagir juste après à ces propos. On l'écoute.
Parce que vous reconnaissez le droit pour chacun de choisir librement sa foi et sa religion. Parce que vous leur reconnaissez le droit de n'en avoir aucune. Parce que vous reconnaissez à chacun le droit de critiquer idées, doctrines et idéologies. Parce que vous défendez le respect absolu de la personne humaine, vous démontrez que l'incompatibilité des religions avec la laïcité n'est pas une fatalité. Pour l'amour du prochain, je vous engage donc, comme vos chefs religieux, à renoncer à toute condamnation, à toute peine, à modifier vos lois si nécessaire, non seulement pour l'athée et l'agnostique, mais aussi pour l'apostat et même le blasphémateur. C'est le prix du vivre ensemble, l'une des conditions de survie de l'humanité. J'ai dit.
Yann De Volder, je le rappelle, vous êtes coordinateur de la marche Together in Peace dont nous parlons aujourd'hui. Vous êtes également représentant de la communauté Sant'Egidio. Lors de cette marche, vous avez vous aussi prononcé un discours dans lequel vous disiez notamment que l'heure était venue pour chaque religion de faire son autocritique. Il faut une purification, avez-vous même ajouté. Est-ce que vous rejoignez ici la demande du président du Centre d'Action Laïque lorsqu'il engage les croyants, toutes religions confondues, à, je cite, « renoncer à toute condamnation, à toute peine, à modifier vos lois si nécessaire, non seulement pour l'athée et l'agnostique, mais aussi pour l'apostat et le blasphémateur ».
Mais écoutez, je pense que la liberté, c'est quelque chose de fondamental. C'est un exercice qu'il faut faire. En ce qui concerne l'Église catholique, je suis historien de formation et donc historien de l'Église notamment. L'Église catholique a mis du temps à accepter, comment dois-je dire, la liberté démocratique.
Mais c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est honnête de le reconnaître.
Non, mais c'est tout à fait vrai. Donc, elle a mis du temps. Notamment, il y a eu des moments au 19e siècle, même au début du 20e siècle. Donc, l'idée quand même que l'Église catholique doit essayer d'avoir une société catholique, le plus catholique possible en tout cas. Alors moi, je pense que la Belgique, dans son histoire, a été quand même un formidable laboratoire de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de mettre ensemble une idée libérale avec une société fortement catholique. Donc, il faut reconnaître à la Belgique qu'elle a été un laboratoire important pour cette laïcité.
C'était les conditions de sa survie aussi.
Exact, je le pense. Et c'est un modèle, je pense aussi, à exporter. Je veux dire, c'est parce qu'en Belgique, en fait, les religions, ils vivent dans la paix, ils vivent dans le respect mutuel. Ça, c'est une énorme valeur. Je pense qu'on a besoin de l'autocritique. Ça, c'est clair. Et ça, c'est un exercice difficile, mais qu'il faut le faire tous.
Mais vous disiez que cette autocritique, l'Église catholique, si on compare au discours qu'elle portait, il ne faut pas aller chercher très loin, il ne faut même pas remonter jusqu'à l'Inquisition. Remontons au 19e siècle, vous venez de le signaler. Il y a un travail autocritique qui a été fait par rapport au discours de l'Église du 19e siècle. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il faut encore, selon vous, être autocritique par rapport au discours de l'Église au 21e siècle ?
Mais l'autocritique, il faut être autocritique à chaque moment de l'histoire. Mais je pense que dans l'histoire de l'Église catholique, si on parle de l'Église catholique, le Concile Vatican II, il y a 50 ans, marque quand même un tournant important. C'est-à-dire, c'est l'Église catholique, à son sommet, qui accepte de vivre dans une société pluraliste et qui accepte d'être un instrument serviteur de l'unité humaine. Et ça, je trouve ça très important pour moi, en tant que, enfin, pour ma spiritualité et celle de la communauté de Sainte-Égide, mais c'est très important d'être un instrument de l'unité du genre humain. Et donc, ça implique le dialogue avec celui qui a une autre croyance, voire avec celui qui n'a pas de croyance. Donc, pour moi, tout ça, c'est très important. Mais c'est un exercice qu'il faut continuer à faire. Mmh. Et j'invite tout le monde, même la laïcité, à faire cette autocritique s'il faut, les musulmans, mais tout ça. Mais je ne peux, l'autocritique, je ne peux le faire que pour moi ou par ma, pour ma propre confession.
C'est effectivement la définition du mot. Jean de Brucker, je suppose que les laïcs auraient eu tendance à dire que c'est la laïcité qui est la condition de survie du genre humain. Que pouvez-vous répondre à Yann de Volder sur cette intervention ?
Oui, effectivement, comme on dit sous forme de formule, le XXIe siècle sera laïque ou ne sera pas. Mais je pense que on se retrouve sur ce point-là, et de plus en plus. C'est vrai que ce n'est pas toujours traduit dans les textes, pour reprendre l'intervention du président du Centre d'Action Laïque, et qu'il reste par rapport aux blasphémateurs, par rapport aux apostats, même ce qui n'a pas été balayé par Vatican II en l'occurrence, mais qui est peut-être... Je ne dirais pas marginal, le problème c'est qu'il est porté par la plus haute autorité, mais enfin, qu'il y ait une remise en question, je passe, de tout le monde. Et les laïcs ont aussi à se remettre en question, on n'est pas pur fruit, pur sucre. Nous avons aussi, entre guillemets, nos extrémistes dans certains domaines. Mais je pense que la notion et l'idée de la laïcité, c'est-à-dire ce qui se rattache au corpus commun pour construire ensemble, puisqu'on dit de plus en plus construire ensemble et pas vivre ensemble, pas vivre l'un à côté de l'autre, mais un avec l'autre, avoir ça, pas simplement la tolérance, mais une tolérance active, participative, une reconnaissance et une connaissance des autres. Donc je pense que là, c'est, et on en parle un peu à tous les niveaux, que ce soit ici en Belgique ou dans d'autres instances, c'est quand même les textes fondamentaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux, qui reste le corpus commun à tout le monde pour construire une société justement qui est démocratique et à l'intérieur duquel on respecte ces deux notions fondamentales, mais qu'on a parfois tendance à assimiler ou à lire dans le mauvais sens. Tous ces textes fondamentaux dont je parlais, Déclaration universelle des droits de l'homme, font toujours suivre deux articles. Il y a la liberté religieuse, qui est une liberté absolue. Donc absolue qu'elle ne peut, elle ne souffre aucune réserve. Par contre, la liberté d'expression, elle, souffre un certain nombre de réserves, on le sait bien, par incitation à la haine, à la violence, etc. Et là, on trouve aussi le respect, et ce qui est mis dans l'intervention d'Henri Bartholomé-Sen, et aussi, c'est le respect absolu de la personne. Mais par contre, on peut totalement combattre les idées, les théories, les idéologies. Et c'est là que le mot respect du moment qu'il est pris dans son sens noble, je ne dirais pas restrictif, de la personne. Mais par contre, ça n'empêche nullement, que ce soit vis-à-vis des convictions, quelles qu'elles soient, ou des engagements, quels qu'ils soient, politiques, idéologiques, spirituels, qu'il ne faut pas mettre une gangue, une protection, des barrières nadar, des sacs de sable, et interdire totalement qu'on les franchisse, parce qu'alors marcher ensemble pour quelque chose n'a plus beaucoup de sens.
Salah Chalaoui, quand Henri Bartholomé-Hussein évoque la possibilité pour les religions de modifier les lois si nécessaire pour protéger non seulement l'athée et l'agnostique, mais aussi pour l'apostat et le blasphémateur, que pouvez-vous lui répondre, vous, en tant que musulman? On sait que dans les pays du monde, là où le blasphème et l'apostasie est encore le plus gravement et le plus durement puni, parfois par la peine de mort, ce sont, hélas, aurais-je tendance à ajouter, dans des pays musulmans. Alors justement, votre réaction sur cette question-là, on l'attend avec beaucoup d'attention. Oui.
Je le rejoins parfaitement parce que pour moi personnellement, je crois que les religions elles-mêmes, dès leur naissance, réclamaient la liberté humaine et la liberté pour les hommes. Ils en ont souffert. Mohammed, prophète de l'islam, en a souffert justement du refus de son message et ses compagnons ont été torturés, tués et malmenés. Je vous rappelle tout simplement lorsque Mohammed a choisi l'Abyssinie, en envoyant toute une série de ses compagnons en exil, en leur disant « Partez en Abyssinie, terre d'un roi juste, où tout homme est libre de sa pensée. » Et le roi d'Abyssinie était un catholique, un chrétien. Le choix de l'Abyssinie a été fait parce que ce roi était juste et il accordait la liberté de penser à tout le monde. Donc on ne peut pas bénéficier de cette liberté tout en la condamnant et tout en imposant une contrainte. Le Coran appelle aussi, en tant que texte révélé, pas de contrainte en matière de religion.
Et comment expliquez-vous, et je vous demande ici peut-être simplement juste un effort pédagogique pour nos auditeurs, mais comment expliquez-vous le fait que si le Coran dit ce qu'il dit selon vous, des pays musulmans condamnent si durement l'apostasie et le blasphème ?
Je crois que ce n'est pas dans tous les pays, en tout cas, je ne les appellerai pas pays musulmans, mais pays à majorité musulmane. Tous ces pays-là ne s'inscrivent pas dans cette définition. Il y a certains pays qui restent bien sûr conservateurs, mais je pense que l'apostasie ou le fait de changer sa religion n'a jamais posé problème dans l'islam lorsqu'on étudie son histoire.
C'est-à-dire que la législation qui, dans ces pays, condamne l'apostasie, par exemple,
ne se fonde pas sur des textes coraniques, sur des textes religieux. C'est plutôt culturel, traditionnel. Quand on étudie l'histoire de l'islam, jamais, par exemple, pendant l'âge d'or de l'islam ou à l'époque même prophétique, une personne n'a été condamnée pour avoir changé de religion. Les musulmans qui nous écoutent savent très bien et connaissent l'histoire d'un des compagnons des prophètes, Abdullah ibn Jahsh, qui était proche des prophètes, qui a changé sa religion en devenant chrétien et il n'a jamais souffert, il n'a jamais été condamné donc pour le fait d'avoir changé sa religion ou le fait d'avoir donc proclamé donc une autre conviction, une autre doctrine. Donc je pense que les musulmans doivent un peu revisiter les textes. Les lire à la lumière des contextes, de leur contexte à eux et des contextes aussi de leur révélation. Et pour peut-être paraphraser Mohammed Al-Khan, qui était un grand humaniste musulman, qui disait la seule façon de bousculer ou simplement d'adapter un savoir théologique canonisé passe pourtant par l'étude du processus mental et historique qui a produit ces significations. Donc c'est très important d'aller un petit peu à la base et voir, tiens, pourquoi tel concept, par exemple, est né à tel moment de l'histoire de l'islam ou de la communauté musulmane. Donc une autocritique, une relecture bien sûr de son histoire, des textes, est très importante pour la communauté musulmane. Quant au discours de liberté ici dans notre pays, je pense que ça c'est une valeur très importante qui nous unit et qui nous rassemble tous. Et sans liberté, nous ne pouvons pas vivre les uns avec les autres. L'espace de laïcité politique qui se traduit ici chez nous, dans notre pays, la Belgique, par la neutralité de l'État, est la seule garantie du vivre ensemble et la seule garantie du pluralisme et du multiconvictionnalisme donc, que nous vivons dans notre société.
Alors, je vous propose peut-être de faire un dernier tour de table pour conclure cette émission sur peut-être ce qui m'inspire, enfin vos réactions m'inspirent une réflexion immédiate. Vous semblez tous les trois converger vers un socle de valeurs communes assez évident. Vous partez de liberté de conscience, de liberté de croire ou de ne pas croire. Là-dessus, vous semblez tous d'accord. Permettez-moi cette provocation. Est-ce qu'on n'est pas ici quelque part dans un discours un petit peu angélique qui ne risque pas de percoler dans la tête de ceux qui continuent à voir le blasphème, l'apostasie comme une marque du diable?
Oui, c'est toujours possible. C'est un exercice difficile qu'on est en train de faire. Ça, mais les circonstances l'imposent. Nous avons un projet totalitariste aux portes de l'Europe, qui est terrible, qui vise, bien sûr, les minorités religieuses.
Vous parlez de qui, en fait, précisément?
Je parle du projet de l'État islamique, de Daesh, qui véhicule ces images avec une cruauté, une force incroyable sur nos écrans, mais qui est un projet totalitariste. Hein. Sont victimes, bien sûr, les juifs des attentats et tout ça. Sont victimes les chrétiens. On a vu des égorgements récemment en Libye, sur les plages de Libye, terribles. Mais aussi les chiites, aussi les sunnites qui sont plus ouverts. Donc, tout d'abord,
qui ne partagent tout simplement pas leur radicalisme.
Voilà, exactement. Donc il y a un projet totalitariste qui fait réfléchir. Et donc il y a une urgence dans ce début du XXIe siècle de nous unir plus, nous humanistes. Parce que c'est très facile d'organiser ici un débat entre nous, hein, donc avec M. Chalouy, si on peut avoir un débat théologique même, ou un débat sur la société, on peut discuter des heures sans doute, avec M. Brucker sans doute aussi. On a, vous dites angélique, mais il y a beaucoup de divergences entre nous, d'opinions, je dirais, sur les débats de société, les débats éthiques et tout ça, je pense. Mais tout ça, ça peut se faire. On a le droit d'avoir d'opinions différentes, mais voilà, dans le dialogue, dans le débat démocratique. Voilà. Mais souligner sa valeur aujourd'hui, c'est important. Nous avons besoin d'un nouvel humanisme. Et le nouvel humanisme, il doit être inspiré par les laïcs, mais aussi par les humanismes religieux, comme l'humanisme chrétien. Moi, je me considère chrétien, je me considère humaniste.
Salah Chalaoui, même question. Est-ce qu'on ne risque pas peut-être de se bercer d'angélisme et, en fin de compte, de ne pas convaincre ceux qu'il faut réellement convaincre ?
Non, je pense qu'il faut avoir le courage de dire ce qu'on pense. On est en train de parler de liberté d'expression et de liberté de pensée. Il faut déconstruire, bien sûr, ce discours extrémiste et radicaliste, qui n'est pas d'ailleurs propre à l'islam, hein, qu'on retrouve dans toutes les convictions et philosophies, donc quelle que soit leur nature, religieuse ou pas. De condamner la violence et la barbarie au nom de telle ou telle religion, parce que nous vivons dans un monde où les gens deviennent fous. Vous voyez ce qui se passe en Syrie, en Irak, ce qui se passe aussi en Centrafrique, ce qui se passe en Birmanie,
en Libye, hein,
en Libye, où les auteurs sont dans certains endroits, ils se proclament de l'islam, dans d'autres endroits, ils se proclament du christianisme, dans d'autres endroits, ils se proclament du bouddhisme. Le radicalisme n'a pas de frontières, il ne touche pas qu'une seule conviction. Dans certains endroits, il y a un radicalisme politique, au radicalisme idéologique qui n'est pas lié du tout aux religions. Et je crois que les hommes de bonne foi, comme nous ici, présents sur ce plateau, qui avons compris justement le message d'une société plurielle, qui adhérons aux valeurs communes que nous devons défendre tous, nous devons, comme l'a dit M. Yann tout à l'heure, M. Yann de Wolder, le modèle belge est un modèle à exporter. Nous devons être fiers de notre modèle, de notre petite Belgique, hein, qui représente un petit espace dans l'Europe, mais qui est en même grand au niveau, si vous voulez, donc de ce qu'il accorde comme liberté de pensée, comme pluralisme, comme multiconvictionnalisme donc dans la société.
Et Salah Chalaoui, merci pour cette intervention. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de route que vous êtes donc le vice-président de l'Assemblée Générale de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Jean de Brucker, le mot de la fin de cette émission. Nous arrivons bientôt au terme de cet enregistrement. En fin de compte, on l'a dit, hein, des avis qui convergent visiblement sur un socle de valeurs que nous partageons tous. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se bercer d'illusions, se bercer d'angélisme ?
Oui, je pense un petit peu. Mais enfin, la démarche est quand même à souligner. La démarche est positive. Même si on est un peu, d'après les explications de notre ami Chalaoui, entre le paradis perdu et le paradis espéré, on vit quand même un peu l'enfer actuellement sur certaines de ces questions. Et donc il faut rester attentif et pas de dire que simplement les bonnes paroles et des actions tout à fait positives comme l'initiative portée par Yann de Wolder pourraient n'amener à rien du tout. Et il y a une autre notion, la notion de liberté, elle est fondamentale. Mais ce qui pourrait éventuellement, pour vraiment la vivre, vraiment la partager, c'est que cette notion de liberté soit non seulement énoncée, vécue, marchée ensemble, mais qu'elle soit aussi pour chaque responsable chef de culte, je dis ça de manière à l'intérieur de sa conviction, de bien faire passer le message à l'intérieur, parce que c'est eux, chacun, et que c'est vrai pour la laïcité, sont les mieux placés pour avoir cette démarche-là. Et dans la notion de liberté, puisqu'on disait que sur certains sujets, comme les sujets éthiques, on n'était pas du tout d'accord, la laïcité, de manière générale, est une défenseuse absolue de la liberté, mais de la liberté de choisir pour les personnes. Et elle n'a pas un corpus de valeurs qui dépend de sa conviction qu'elle voudrait imposer aux autres en interdisant. Et je donne souvent l'exemple, c'est pour les questions éthiques, c'est la liberté de l'avortement, la liberté de l'euthanasie, c'est pas le choix ou l'imposition. Et donc ce serait intéressant aussi que chacune des convictions, pour les personnes qui font partie de cette conviction, en aient la liberté, défendent le valeur et les valeurs morales, mais ne tentent pas de l'imposer à l'ensemble de la population, puisque là, on transgresse un peu ce principe général de liberté.
Ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais il nous reste une minute. On va donc le postposer à une prochaine fois, un prochain enregistrement. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir justement prolongé le débat suite à cette marche Together in Peace. Merci également à l'RTBF qui nous a exceptionnellement et gentiment permis de nous installer dans ses studios pour l'enregistrement de cette émission. Merci à Vincent Van Der Venet pour le citer pour son travail en régie. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir.